Bonjour à tous et à toutes, Florence Westergaard pour vous présenter ce nouveau podcast Escale. Cette semaine, nous allons au Niger avec Dominique Hyde, directrice des relations extérieures au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Le Sahel, c'est une région où on doit intervenir maintenant avant que la situation devienne ingérable. Et nous sommes presque au bord du précipice.
3,8 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire au Niger en 2021. Le Niger, pays d'Afrique occidentale, demeure confronté à une urgence humanitaire complexe, allant des violences perpétrées contre les civils aux effets du changement climatique. La pandémie de COVID-19 a exacerbé encore plus les vulnérabilités existantes. Il vient de rentrer d'une mission dans ce pays, tout particulièrement dans la région de Wallam, où le HCR et ses partenaires fournissent déjà une aide humanitaire aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux personnes vulnérables parmi leurs hôtes. Elle fait un compte-rendu émotionnel de ce qu'elle a vu et entendu sur le terrain. Mais malgré cela, des moments d'espoir aussi se voient parmi les populations de réfugiés. Elle raconte.
Le Niger et la situation au Sahel est une des urgences les plus méconnues au monde et les moins médiatisées aussi. C'est pas seulement un des pays les plus pauvres au monde, c'est le pays le plus pauvre au monde et c'est aussi un pays où il y a 7 frontières avec un amalgame de défis. Que ça soit les réfugiés qui arrivent du Mali, du Nigeria, du Burkina Faso, que ça soit les déplacés forcés internes aussi avec une insécurité grandissante. Et ça, avec bien sûr certains des indicateurs les pires au monde quand on parle d'éducation, de santé et tout ce qui a trait à atteindre les ODD.
Donc le Niger accueille un grand nombre de réfugiés, comme vous dites, avec ces 7 pays frontaliers. Qui sont ces réfugiés que vous avez vus ?
Écoutez, alors moi j'ai eu l'opportunité d'aller dans une région qui s'appelle Wallam, où en fait depuis plusieurs années on a vu une entrée de réfugiés qui arrivent du Mali. Je dois dire que le Niger est un pays extraordinairement généreux. Malgré le fait que c'est un des pays les plus pauvres du monde, ils ont gardé leurs frontières ouvertes, ils ont accueilli les réfugiés, et non seulement est-ce qu'ils les accueillent dans leur pays, mais les réfugiés du Mali que j'ai rencontrés ont accès à l'éducation, aux soins de santé, tout ce qui est protection sociale du pays est aussi octroyé aux réfugiés maliens. Et ça, c'est une exception dans le monde. Mais alors, où ils en sont, c'est que la plupart sont là depuis plusieurs années. Et bien sûr, on est en train de les transférer, en fait, d'être dans des situations précaires, en fait, à construire, parce que bien sûr, c'est aussi un pays qui est touché par le changement climatique. Et du coup, en fait, on travaille aussi pour la création de maisons écologiques pour ces réfugiés. Donc, on construit des maisons pour les réfugiés, mais aussi pour les déplacés et les populations les plus vulnérables, les autochtones de ce coin. Comme ça, on fait vraiment des nouvelles communautés et on construit aussi des écoles qui accueillent tous les groupes.
Et bien sûr, il y a beaucoup de femmes et d'enfants qui sont très impactés par le déplacement. Donc, est-ce que vous avez pu en rencontrer quelques-unes et qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se passe pour elles?
Ben, écoutez, en fait, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment émue. Lorsque j'étais dans cette région de Wallam, en train de rencontrer ces familles maliennes réfugiées, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des gens du Niger qui ont été déplacés de force. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Fati Ida, qui habite à la frontière avec le Mali. Son village entier a été détruit. Elle a vu sa famille, ses voisins assassinés devant elle. Elle m'a raconté des histoires d'horreur de ces groupes armés qui sont en train de violer les femmes de tout âge et même certaines jeunes filles. Et même au point où elle me disait qu'ils prenaient même leurs vêtements qu'ils avaient sur le dos. Elle s'est enfuie. Elle est allée voir le chef du village et elle a demandé de l'appui. Et en demandant cet appui, elle a mis en péril la vie de son chef de village qui a été assassiné sous ses yeux. Elle s'est enfuie avec ses 9 membres de sa famille, dont sa sœur qui était enceinte. Sa sœur a accouché de jumeaux sur la route et ils sont morts-nés à cause des traumatismes. Et là, elle était avec moi dans un centre où on accueille les déplacés, où on offre des soins de santé, mais surtout une sécurité, où ils peuvent dormir en toute tranquillité. Mais elle était encore excessivement ébranlée. Elle avait une petite fille dans ses bras, sa fille à elle, qui avait à peine 6 mois. Et elle m'a dit, si ma fille avait été un garçon, ces groupes armés l'auraient aussi assassinée.
C'est presque inimaginable ce que ces personnes vivent, n'est-ce pas?
C'est vraiment, vous savez, je fais ce métier depuis plus de 25 ans. Alors bien sûr, la crise n'est pas seulement au Niger, c'est une crise du Sahel. On parle de plus de 3 millions de déplacés forcés. Et ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus en danger, qui sont le plus impactés, qui vivent des situations terribles. Ne parlons même pas de tout ce qui a trait à la malnutrition et l'accès de base. Donc, on fait des pas en arrière, Florence. Il y avait eu un investissement en termes de développement important dans ce pays. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de reculer, un, à cause de la pandémie, et deux, à cause de l'insécurité dans le pays. Et ce sont les jeunes, ce sont les femmes, ce sont les enfants qui sont les plus touchés.
Est-ce que vous avez vu aussi des personnes qui apportent de l'espoir justement dans tous ces réfugiés? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été réconfortants pour vous tout de même?
Oui, alors j'ai rencontré une dame qui s'appelle Fatima, une réfugiée encore du Mali. Elle avait 3 enfants, elle n'a plus de mari. Sa fille aînée, qui, elle, avait 12 ans, elle n'avait pas pu aller à l'école depuis longtemps. Là, elle venait juste de commencer à l'école et dans un environnement sécuritaire juste à côté de la maison. Ses 2 autres enfants étaient de jeune âge, mais ce qu'elle espérait à ce point-ci, c'était vraiment de trouver un emploi, de trouver du travail. Par ailleurs, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle se sentait en sécurité, elle se sentait protégée et elle savait que ses enfants avaient cet accès à l'éducation qui lui donnait un certain espoir.
Pour tous ces réfugiés qui sont au Niger, quel est l'espoir? C'est de rester dans le pays et qu'ils reconstruisent une nouvelle vie et recommencer une nouvelle vie? Ou bien c'est autre chose? Est-ce que justement c'est la réinstallation? Quel est le travail justement du HCR dans cette région?
Écoutez, Florence, c'est un pays où je dirais où c'est très difficile de dire la différence entre les réfugiés, entre les déplacés, entre la population locale. Et bien sûr, c'est pour ça aussi que le gouvernement a cette approche d'ouverture à tous les groupes, mais aussi, pour nous, un des défis, c'est tout ce qui est identification et documentation, parce que ça aussi, c'est une forme de protection pour les réfugiés. Mais si je peux vous raconter une autre anecdote, le Niger n'accueille pas seulement les réfugiés qui viennent des pays avoisinants, mais c'est aussi un pays qui a un centre, et le centre s'appelle un mécanisme d'évacuation, d'urgence et de transit de réfugiés qui ont été détenus en Libye. Et c'est un centre où on est supposé d'être que là pour quelques semaines, quelques mois. Ce sont les cas les plus vulnérables de réfugiés que je n'ai jamais rencontrés. Et vous m'avez parlé d'espoir. Alors, j'aimerais vous raconter une histoire terrible, mais en même temps qui finit avec une belle histoire et qui raconte vraiment ce que le Haut Commissariat pour les réfugiés fait comme travail. J'ai rencontré une femme de l'Érythrée qui, avec ses 2 enfants, un garçon qui a 19 ans et une fille de 15 ans. Ce soir-là, ils allaient déménager au Canada où ils allaient être réinstallés. Et l'espoir dans leurs yeux était extraordinaire. Et cette femme-là a vécu des atrocités en Érythrée. Elle a fait le voyage très difficile avec ses 2 enfants à travers le Soudan pour se retrouver en Libye, pris par des trafiquants, enfermés, kidnappés, violés tous les jours. Et on leur donnait presque pas à manger, presque rien à boire. Et en plus de ça, torturés. Lorsqu'ils ont été relâchés et qu'ils ont essayé de fuir par bateau, ils ont été rattrapés par les autorités libyennes, mis en détention. Et ensuite, le gouvernement du Niger les accueille, leur offre un moment de répit où on leur offre des soins de santé mentale, parce que vous imaginez le traumatisme. Mmh. Et ainsi, que les soins de santé qui sont nécessaires pour ensuite être réinstallés au Canada. Et là, l'espoir était là. Et le fils avait très hâte d'aller à l'école aussi. Il avait très hâte de faire du sport. Et la fille de 15 ans aussi, qui n'avait même plus d'idée de à quoi ressemble une salle de classe. Et en fait, on a eu une très belle discussion. Et je lui ai dit qu'on n'avait pas des bons joueurs de foot au Canada et qu'il aurait dû aller ailleurs. Il m'a dit, mais comment est-ce que j'ose dire ça? Et il m'a parlé d'un joueur de foot canadien qui est l'ambassadeur de l'UDO, commissariat pour les réfugiés, qui s'appelle Alfonso Davies. C'est un réfugié du Liberia qui s'est retrouvé au Ghana pour être réinstallé au Canada. Et est une des plus grandes stars de foot au monde maintenant pour Bayern Munich. Donc, même lui voyait de l'espoir via d'autres réfugiés. Donc ça, c'est des histoires d'espoir. Mais en général, je dirais que la plupart des réfugiés au monde, et ça aussi au Niger, la seule chose dont ils rêvent, c'est de rentrer chez soi.
Et comment le HCR donc fait face justement à tous ces défis humanitaires, logistiques, sanitaires, mais il y a aussi eu la COVID pendant toute l'année. C'est vraiment des moments assez difficiles pour le HCR.
Vous savez, c'était mon premier voyage depuis le début de la pandémie sur le terrain et j'ai été vraiment frappée par le courage de mes collègues du Haut-Commissariat pour les réfugiés, non seulement à cause de la pandémie, mais à cause de l'insécurité dans le pays, les dangers qu'ils parcourent, c'est simplement extraordinaire et émouvant. Mais comme vous dites, on a des défis multiples. Donc d'un côté, c'est vraiment s'assurer que tous les acteurs de développement au sein des agences des Nations Unies, les ONG, les donateurs, etc., vraiment financent tout ce qui est secteur social du gouvernement du Niger pour que cet appui qu'ils donnent aux populations locales aille aussi aux Nigériens. Mais on fait face aussi à une situation où le Sahel, c'est une des régions les moins financées du monde. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire tout le travail. Et souvent, pour revenir par exemple aux réfugiés du Nigeria qui se trouvent au Niger, on ne peut aider que 20% de la population. Et qu'est-ce qui arrive aux autres? Franchement, nous sommes assez certains que certains d'entre eux se retrouvent dans des situations précaires, d'insécurité et font face au trafic, à tout ce qui est violence faite aux femmes, tout ce qui est abus domestiques, parce qu'on ne peut pas les rejoindre, parce qu'on n'a simplement pas les moyens.
Vous disiez plutôt que tous ces réfugiés, tout ce qu'ils voulaient, c'était de retourner chez eux. Comment est-ce possible, vu la situation dans la région? Est-ce que ça sera possible un jour?
Le Sahel, c'est une région où on doit intervenir maintenant, avant que la situation devienne ingérable. Et la situation n'est pas seulement au Niger, c'est au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria. Tous les jours, aujourd'hui, hier, la semaine dernière, on a vu des centaines de personnes qui ont été tuées. L'insécurité est montante. Je pense que c'est ici où toutes les agences des Nations Unies et le système des Nations Unies et les États membres doivent venir ensemble. Et il y a énormément d'outils de stabilisation qui sont en place. Mais je pense que c'est vraiment cette question de sécurité dans laquelle on doit investir. Donc, pour le moment, je pense que toutes les indications sont plutôt inquiétantes. Et ça va main dans la main avec cette pandémie qui a vraiment appauvri le monde entier. On voit une situation, et on l'entend de la Banque mondiale, où la pauvreté est grandissante. Et si elle est grandissante pour les communautés locales, elle l'est d'autant plus pour les réfugiés.
Peut-être une dernière question. Vous êtes canadienne. Donc, nous avons vu combien le Canada est vraiment le leader hein, pour toutes les questions justement de réinstallation. Donc, quel est justement votre message peut-être pour les autres pays qui sont frileux aux questions de réinstallation? Et est-ce qu'ils peuvent apprendre justement du Canada?
Écoutez, l'an dernier, il y avait plus de 1,4 million de réfugiés qui étaient de vulnérabilité extrême, qui avaient besoin de réinstallation immédiate. Ce sont les réfugiés les plus vulnérables et qui ont des cas où ils ne peuvent vraiment pas rentrer chez eux pour des raisons de sécurité. Et l'an dernier, à cause de la pandémie, à cause de beaucoup de pays qui sont devenus de plus en plus conservateurs, on n'a pu que réinstaller 20 000 de ces réfugiés. C'est la pire année en 20 ans. On a vu avec la pandémie, non seulement au Canada, mais dans plusieurs pays, combien les réfugiés ont fait partie de la réponse à la pandémie dans les secteurs de santé. Donc nous, vraiment, ce qu'on demande, c'est qu'on ait une augmentation de pays qui acceptent et qui réinstallent les réfugiés. Mais il y a aussi d'autres solutions. Il y a tout ce qui est éducation, mais au niveau tertiaire, c'est-à-dire au niveau des universités, c'est une autre forme de solution d'accepter des réfugiés comme étudiants au niveau universitaire, les appuyer financièrement. Ce n'est pas seulement les pays qui peuvent faire ça, mais aussi les individus comme vous et moi qui pouvons appuyer et aider des réfugiés à venir étudier dans des pays qui sont plus sécuritaires, qui peuvent offrir une éducation et donc une solution à long terme aussi pour les réfugiés.
Dominique Hyde, vous voulez ajouter quelque chose d'autre?
Mon seul message, c'est qu'il ne faut pas oublier les réfugiés, il ne faut pas oublier le Sahel. Je pense qu'une chose qu'on a appris avec cette pandémie, c'est que malheureusement, cette pandémie n'arrête pas la violence, n'arrête pas les conflits dans le monde, mais on se rend compte qu'on est un, qu'il n'y a pas plus de différence entre les frontières. Cette pandémie n'a pas arrêté non plus de traverser les frontières. Donc, on doit travailler ensemble si on veut vraiment résoudre les problèmes sur cette terre.
Et c'est avec ce message de Dominique Hyde, directrice des relations extérieures au HCR, que se termine notre podcast Escale. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Merci de votre fidélité. À la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale.